كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Donc, Inch'Allah ou Ta'ala, Naltaqi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur le Tawhid, matière incontournable dans les sciences religieuses. Également, une petite parole en rapport avec la science. Man wasala mubakkiran ila dirasati al-ilm. فَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ Celui qui se présente aux assises de science avec de l'avance tôt, il aura gagné une grâce immense, une grâce pour lui, une grâce immense. Donc, dans un premier temps, comme vous le savez, on est toujours dans le début de l'apprentissage de cette matière, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier ouvrage qui est un épître, al-wajibat, al-mutahattimat, al-wajibat, Al-Mutahattimat. Et on est arrivé dans cet épître. On est encore au début. Hein. On est juste au chapitre. Nous sommes juste au chapitre des conditions de la ilaha illallah. Avant d'entrer dans ces conditions, on est en train d'expliquer de faire un petit exposé tiré d'une risala de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça veut dire que le matn, c'est de sur la ilaha illallah, c'est de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais l'explication, c'est de Sheikh Al-Fawzan. Donc, c'est en tant que débutant, c'est super profitable pour vous. Car, comme vous le savez, on ne peut pas aspirer ou prétendre au tawhid en n'ayant pas la connaissance de la parole du tawhid. Et la parole du tawhid, c'est la ilaha illallah. Cette parole, elle est tellement importante, elle a tellement un impact inconsidérable, plus qu'on ne peut nous-mêmes l'imaginer, plus que nous-mêmes on peut se l'imaginer, hein, qu'il est en réalité inconcevable, inconcevable, et cela va de soi, c'est un péché de ne pas connaître le détail, de ne pas connaître le sens, de ne pas avoir pour un musulman un minimum de connaissances sur la ilaha illallah. C'est inconcevable. Fil haqiqa, ceux qui connaissent la réalité du tawhid, la réalité de cette parole, ils ont conscience que c'est pas possible. T'es musulman, chaque musulman normalement, il doit être capable, si quelqu'un lui dit, parle-moi de cette belle parole s'il te plaît. Un mécréant, un associateur, ce que vous voulez, un athée, parle-moi de cette belle parole, s'il te plaît. Chaque musulman, il doit être capable, bien entendu, avec un minimum de science et avec son cœur, car les deux font la paire. Hein. Les deux font la paire. On n'est pas des politiciens. On blablate. Mais là, on est des gens du tawhid. un minimum de connaissances et tu exhortes avec ton cœur, et tu verras que chaque musulman, normalement, il doit être capable, ne serait-ce qu'un minimum, de lui dire cette parole de la ilaha illallah. Tu veux que je te l'expose? Tu veux que je t'expose cette parole? Assieds-toi et écoute bien et ouvre ton cœur. Cette parole, la ilaha illallah, c'est celle pour laquelle Allahu Ta'ala, il a tout créé. Les cieux, la terre, les humains, les animaux, tout, tout a été créé juste pour cette parole de la ilaha illallah. Juste pour cette parole de la ilaha illallah. Cette parole de la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et comme on va l'étudier après, une clé doit avoir des dents pour ouvrir. Et les savants disent que les dents de cette clé du paradis, le tawhid, ce sont les conditions de la ilaha illallah. Cette parole de tawhid, celui qui la concrétise, sa demeure éternelle sera le paradis. Cette parole de la ilaha illallah, celui qui l'a dit avant de mourir, tous ses péchés seront pardonnés, il entrera au paradis. Cette parole de la ilaha illallah, le jour de la résurrection, c'est ce qui pèsera le plus lourd sur la balance, avec le comportement, selon les textes, les hadiths. Cette parole de la ilaha illallah, c'est celle qui fait entrer en islam et qui fait que tes biens, ton sang et ton honneur est interdit et sacré. Cette parole de la ilaha illallah, c'est celle qui fait que tu seras heureux dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, ou malheureux. Cette parole de la ilaha illallah, en fonction de sa concrétisation, de ta concrétisation de cette parole, tu passeras avec succès sur le pont. Tu passeras au-dessus de l'enfer. Alors, en fonction de ta concrétisation, difficilement, moins facilement, plus facilement, très facilement, ou alors tu tomberas en enfer, qu'Allah nous en préserve. Cette parole de la ilaha illallah, comme l'a dit Allah lui-même à Moussa alayhi salam, c'est la meilleure invocation, c'est le meilleur dhikr, évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Moussa alayhi salam a demandé à Allah ta'ala, oh Allah, mentionne-moi quelque chose avec lequel je pourrais t'adorer, t'invoquer, que tu n'as pas donné auparavant. Moussa, il voulait quelque chose de spécial. Allah Ta'ala lui a répondu, oh Moussa, dis la ilaha illallah jusqu'à la fin du hadith. Jusqu'à la fin du hadith. Oh Moussa, dis la ilaha illallah, à peu près dans le sens du hadith, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu ne trouveras pas mieux. Ça, ce sont quelqu'un, parce qu'on ne pourrait même pas les dénombrer, l'importance, les bienfaits, la grâce de cette parole. La ilaha illallah. Comment les gens du tawhid, comment on se dit gens du tawhid, on veut aller au paradis, on se dit musulman, on témoigne de la ilaha illallah parce qu'on veut entrer en islam, mais on n'a pas la connaissance du sens de cette parole. C'est inconcevable. C'est pour cela que dans l'étude de la science, parmi les choses les plus nobles et les choses qui sont les plus importantes, c'est le tawhid. Et quand on dit tawhid, ça passe par cette parole de la ilaha illallah, parce que cette parole, en fonction de ta concrétisation de cette parole, tout le reste y sera accepté ou pas. Donc là, on comprend bien pourquoi c'est la priorité ultime. En fonction de la concrétisation, de ta concrétisation de cette parole, tout sera accepté ou pas. En fonction de comment tu seras capable de transmettre cette parole à autrui, bien sûr par l'autorisation d'Allah, ce sera un facteur que par ta cause ils seront guidés ou pas. Et ça passe par la connaissance. Tu ne peux pas transmettre ce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi il est très important d'étudier, d'assimiler, de faire entrer dans son cœur et de pratiquer cette parole de la ilaha illallah. Quand on a compris tout ça, ça ne va pas être suffisant. Ça va être un grand pas, ça va être un énorme, un grand pas, mais ça ne sera pas suffisant. Pardon. Pourquoi? Parce que cette parole, la ilaha illallah, vous savez bien que cette parole de la ilaha illallah, tout ce qui mène au paradis, eh ben le shaitan, il est derrière. Ça, faut pas se poser la question. Faut en être convaincu. Il faut en être convaincu. Tout ce qui est pour toi, ça te fait entrer au paradis, des grosses hassanettes, ça te fait pardonner tous tes péchés, tout ça, dis-toi, shaitan, il est derrière, pour pas que tu gagnes tout ça. Donc la parole de la ilaha illallah, comment il fait le shaitan? Dans un premier temps, il va essayer de t'éloigner de son apprentissage pour que tu sois un ignorant de la ilaha illallah. Et si tu es ignorant, on en a parlé dans les cours précédents, on va continuer à en parler, le résultat est très grave. Dans un deuxième temps, s'il ne réussit pas à t'éloigner de son apprentissage, il va essayer de te détourner en te dirigeant, en t'orientant vers ceux, vers les innovateurs, hein, tout court, les innovateurs ou les associateurs, ceux qui expliquent la ilaha illallah, mais d'une manière erronée, innovée, associatrice, mécréance, tout ce que vous voulez. Je vais vous donner un petit exemple. Quelques petits exemples, bien que Cheikh Al-Fawzan, à la suite, dans notre cours, on n'a pas encore commencé hein, le cours, c'est une introduction, bien que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il va détailler ça. Mais nous, on va quand même vous donner des exemples. Concernant les ignorants, ceux qui n'étudient pas du tout le tawhid, eh ben, toute place aux suggestions, aux points de vue, à tout ce que vous voulez. Et si tu n'étudies pas, tu es la proie du shaitan. Donc, il va te balader. Tu ne sauras même pas ce que ça veut dire la ilaha illallah, malgré que tu témoignes avec ta langue. Et là, tu risques de ne pas concrétiser le tawhid. Attention. Vous avez par exemple des gens de la masse. Oui, on est musulmans, la ilaha illallah. Et toute la journée, ils jurent sur leur mère, ils jurent sur la Kaaba. Peut-être ils vont porter des annulettes. C'est la mode même pour les jeunes maintenant. pour être protégés, peut-être ils vont voir des voyantes, etc. Le la ilaha illallah, ni tu l'as compris, ni tu l'as pratiqué. Ça, c'est la première forme d'orientation du shaitan. Le deuxième exemple, les innovateurs. Comme va nous le dire ici Cheikh Al-Fawzan à la suite, les innovateurs, eux, leur truc, si on peut dire truc, hein, c'est que, leur stratagème hein, du shaitan, c'est que eux, ils vont expliquer La ilaha illallah d'une manière erronée, qui n'est pas la vraie explication du prophète, salam, de ses compagnons, de tous les grands imams, les salafs. Ils ont une explication qui n'est pas correcte, voire même, écoutez bien, et on va étudier tout ça, ne vous inquiétez pas, il y a le gros détail qui suit au fur et à mesure du programme. Écoutez bien, même certains groupes, parmi les groupes, ils ont adopté l'explication de la ilaha illallah, où il n'y a aucune différence entre eux et les polythéistes, les associateurs à l'époque du prophète. C'est-à-dire qu'il y en a, ils disent, la ilaha illallah, ça veut dire pas de créateur à part Allah, pas de pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à part Allah, pas de roi dans la royauté, ni d'administrateur à part Allah. Il n'inclut pas les adorations, l'unicité de l'adoration, dans la ilaha illallah. Naham. Donc ça, c'est un grand, grand, grand problème. C'est un grand égarement. Naham. Tayyib. Donc, il est impératif d'avoir une connaissance profonde de cette parole, parce que cette parole, c'est la base de tout. C'est cette parole qui fait que tes œuvres et tout le reste, où ça sera accepté ou ça sera pas accepté. Cette parole est également, elle va t'emmener l'acquisition et la concrétisation de cette parole. En français, il n'y a pas de page. En français, on nous pose la question quelle page on est. En français, il n'y a pas de page. On est dans l'explication de la ilaha illallah et dans le livre dans Al-Wajibat al-Mutahattimat, il n'y a pas l'explication de ça. Moi, ici, j'ai l'ouvrage en arabe de Sheikh Al-Fawzan et j'explique. Maintenant, et même tout ce que je suis en train de dire, c'est. Là, on est dans une introduction, c'est-à-dire, depuis le début, tout ce que j'ai dit, c'est moi. C'est l'enseignant qui parle. Et après, on va revenir dans l'explication de Sheikh Al-Fawzan. On est dans une introduction. Les introductions, en général, c'est l'enseignant qui transmet, qui exhorte. Taïb, bien sûr, pas avec sa tête. Tout vient des ulama. C'est une science. Hein. Il n'y a rien qui sort de la tête. Naham. Par contre, en français, je ne sais pas si ça existe. En français, c'est un majmour, on appelle ça un majmour. C'est un ouvrage où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Sheikh Al-Fawzan. Il y a plutôt de Sheikh Mohammed bin Abdel Wahhab. Il y a 6 ouvrages expliqués par Sheikh Al-Fawzan. Je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, ça. Ça existe? On me dit, Sheikh Abu Youssouf, il dit je l'ai. Ça existe, mashallah. Tu peux envoyer une photo, ça ne dérange pas? Si tu peux envoyer la photo, on va envoyer aux élèves. Alors, la Koulihal, c'est juste un petit passage, nous, qu'on a pris. Mais par contre, si pour vous, ça peut être intéressant de lire l'ouvrage tout seul. Et quand vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas. Mais si c'est traduit en français, c'est quelque chose de pas mal, hein? Silsila Sharh al-Rasa'il, c'est un enchaînement d'explications d'épîtres réunies. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6, 12. Moi, j'en ai à peu près une douzaine hein, ici, expliquées par Sheikh Al-Fawzan. C'est que des épîtres de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et moi, j'ai choisi ici, on est en train d'expliquer l'épître qui est. Alors, comment il s'appelle? Non, c'est pas ça. J'ai tourné trop les pages. Qui s'appelle. Voilà. Explication de la parole du Tawhid. Tafsir, Kalimat et Tawhid. Explication de la parole du Tawhid. Taïb. Donc, on a reçu la photo. Je vais vous la faire transmettre. Comprendre l'attestation de foi. La ilaha illallah. Sheikh Salih al-Fawzan. Comprendre l'attestation de foi. Je ne sais pas si c'est le même qu'on a. Ah si, tafsir kalimat at-tawhid. Si, normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Je l'ai envoyé à votre admin, qui elle à son tour va vous l'envoyer, inshallah ta'ala. Taïb. Alors. Donc cette parole de tawhid, cette parole de tawhid, la ilaha illallah. Il faut savoir une chose. C'est que tout ce qu'on vient de dire, quand tu as pris conscience, etc., il ne va pas être suffisant de prendre conscience, mais il va falloir apprendre le sens, le pratiquer, et dans l'apprentissage du sens, il y a quand même beaucoup de choses. Parce que cette parole, c'est tout le tawhid. On a vu précédemment, par exemple, qu'il y a des gens qui ont adopté cette parole, mais ils ne l'ont pas concrétisée. On a vu dans les cours précédents, il y a des gens, ils disent La ilaha illallah, ils disent il n'y a pas de souci, il n'y a de divinité, en vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va enlever le en vérité parce que eux, ça revient au fait que, il n'y a pas en vérité avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'absolu, puisqu'il leur manque une implication. On a vu dans le cours précédent, c'est quoi cette implication? Oh, par contre, nous, les mouchriquines, les associateurs, on n'a rien à dire sur eux. On ne se désavoue pas du polythéisme et de ses adeptes. Là, il va te manquer un pilier. Il va te manquer une partie de la ilaha illallah. Énormément de gens comme ça. Ou alors, il y a des gens, énormément de gens de la masse, hein, énormément de gens de la masse qui disent la ilaha illallah. Mais qui vont voir les sorciers, les voyantes, et pour eux c'est normal. Je suis musulman, c'est juste, je vais lui demander ce qui va se passer. Et ça c'est un acte annulatoire de l'islam. Alors c'est pas dans l'absolu, c'est pas dans l'absolu que c'est un acte annulatoire. L'acte annulatoire, c'est si tu vas voir un voyant et tu crois, avec la conviction, tu crois fermement à ce que va te dire le voyant. Là, c'est acte annulatoire. On verra ça dans Kitab Tawhid, il y a plusieurs cas. Ce n'est pas dans tous les cas où tu es parti voir une voyante que tu es sorti de l'islam. Taïb, alors pour pas vous laisser avec des ambiguïtés, qu'est-ce qu'il a dit le Oustaz? On va éclairer cette question. Vous la trouvez dans l'explication du livre de l'unicité qu'on fera à la suite. Les savants disent une personne qui va juste par curiosité, mais qui ne croit pas. Qui s'est déplacé pour aller voir mais qui n'y croit pas. Wallahu a'lam, il y a des savants, ils disent, lui, il sort pas de l'islam. Mais il y a ces invocations, tout ça, ils sont pas acceptés pendant 40 jours. Il y a une sorte de punition. Il y a un autre cas également que mentionnent les savants, c'est si, par exemple, un talibul ilm ou quelqu'un, il y va, il se rend chez une voyante pour se moquer. Pour se moquer, il croit pas du tout, hein, c'est pour se moquer d'elle. Là, on ne dit pas qu'il sort de l'islam. Taïb. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, dans ces pas, faut pas croire que toute personne qui est partie, tu lui dis, ça y est, t'es sorti de l'islam, t'es plus musulman, t'es un mécréant. Taïb. Et il y a d'autres cas également. Mais la base, on reste sur la base pour pas vous embrouiller. Si quelqu'un il va voir une voyante, on part du principe que c'est grave. C'est très grave. Après, faudra lui demander ses motivations. Pourquoi, qu'est-ce qu'il en, pourquoi, c'est quoi sa croyance, etc. Parce que ce n'est pas toute personne qui a fait un acte de mécréance qui est mécréant. Attention, attention, retenez toutes ces règles qu'on étudiera par la suite, ne vous inquiétez pas. Vais vous donner un exemple parce que ça aussi s'apprête à ambiguïté. Ce n'est pas toute personne qui a fait un acte de mécréance qui est mécréant. Ou qui a dit un acte de mécréance. On va vous donner un exemple. Il y a une personne, un jour, il est parti, il était dans le désert, avec sur sa chamelle, il y avait tous ses biens, il y avait toute sa vie. Et lorsqu'il a, à un moment, sa chamelle avec tous ses biens, elle s'est sauvée, elle est partie. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Je vous passe les détails, il a dormi ou quoi. Et quand il s'est réveillé, sa chamelle, elle était revenue. Et il était tellement heureux Il était tellement heureux qu'il a fait une prosternation de remerciement, sujoud shukr, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans son invocation, il a dit: Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est donc trompé, c'est une parole de mécréance. Il s'est adressé à Allah en lui disant: Je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Mais les savants disent: C'est ce qu'on appelle un empêchement à la mécréance. On va pas étudier ça tout de suite, hein, vous inquiétez pas, on va l'étudier. Mais c'est un empêchement à la mécréance. Pourquoi? Parce qu'il a une excuse, il était tellement aveuglé par la joie qu'il n'était pas conscient et responsable de ce qu'il a dit. Donc cette parole de mécréance ne lui est pas attribuée, le jugement de mécréance ne lui est pas attribué. Voilà, ça c'est pour vous donner une preuve que c'est pas toute personne, vous allez le voir faire de l'association ou de la mécréance, tout de suite vous appliquez le jugement. Alors ça marche pour l'innovateur, ça marche pour le mécréant, l'associateur, il y a un recul à prendre et vérifier certains paramètres avant de dire tout de suite: Oh, c'est un mouchrik, il est sorti de l'islam. Oh, c'est un mécréant. Oh, c'est un innovateur. Alors, avec ce que vous venez d'apprendre ici, vous constatez directement que un grand nombre, même chez les gens de la Sunna, ils sont loin. Ils sont loin. Mais attention, je vais vous répondre par une autre règle. Attention, pour casser l'ambiguïté, je vous réponds par une autre règle. Le grand nombre n'est pas une preuve de vérité. Retenez cette règle, marquez-la sur où vous voulez. Enregistrez-la dans votre tête, parce que c'est même une règle de vie. Attention, c'est pas que dans le tawhid, c'est pas que dans le manhaj, c'est pas que dans la religion, même dans ta dunya. Le grand nombre ne le suit jamais. Il n'est pas une preuve de vérité, le grand nombre. Taïb. Alors, on va revenir à notre explication ici de la ilaha illallah. Deux petites secondes, je suis à vous. Taïb. Alors, Cheikh Al-Fawzan est là pour ceux qui ont le livre en français que nous a mentionné, partagé notre frère. Bah, je peux même pas vous dire la page parce que moi c'est en arabe. Hein. En tout cas, moi c'est page 82 en arabe. Non. Si le livre il existe en français, vous pouvez vous le procurer. Franchement, c'est bien. Explication de la parole de l'unicité de Tawhid de Cheikh Al-Fawzan. Tiré d'un épître de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, pour vous c'est super. Lisez-le plusieurs fois, lisez-le bien, et vous serez capable de faire un exposé n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Ah, c'est très gentil. Alors je regarde, on nous a envoyé un PDF ici, je vais voir. Ça, cet ouvrage, ce contenu, vous le lisez plusieurs fois, vous le relisez, vous l'apprenez. La parole de la ilaha illallah, elle sera. Ça sera. Cheikh Al-Fawzan, Nasiha wa Athara ala Wahdat Kalimat Bayn al-Muslimin. Je ne sais pas si c'est celui-là. Ça a l'air profitable. Naam. Je ne sais pas si c'est le même. Faudra que je vérifie. Avant de transmettre le PDF, je vérifierai, Inch'Allah, le contenu. En tout cas, la maison Ibn Badis, elle est bien. Masha'Allah. Naam. Barakallahu fik, Cheikh Sadio. Tamam. Vous connaissez en tout cas normalement les livres français. Je pense que vous avez plus de connaissances. Nous, on n'est pas experts dans les livres français, mais alhamdoulillah, on a un minimum. En tout cas, dans les livres en arabe, on vous mentionnera toujours les livres en arabe. Et puis à vous de connaître ou de savoir ou de chercher s'il y a des équivalents en français. Et là, vous aurez tout gagné. Vous aurez tout gagné. Là. Taïb. Cheikh Al-Fawzan nous dit, Alors là, on est arrivé au passage où Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer la parole de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui dit, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui dit la ilaha illallah d'un culte exclusif, c'est-à-dire sincèrement, avec un culte exclusif, sincèrement venant du cœur, c'est-à-dire avec son cœur, il est véridique, et qui mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'arrêter lorsque tu prononces la ilaha illallah, concernant la parole de la ilaha illallah. Et il ne faut pas s'arrêter uniquement au fait de la prononcer. Il ne faut pas uniquement s'arrêter, ça vous le savez, on en a parlé, au fait uniquement de la prononcer. Mais ça doit être une parole qui engendre dans ton cœur une croyance du cœur. C'est-à-dire qui nécessite, qui implique une croyance du cœur. Cheikh Al-Fawzan nous dit, La yakfi annahu yaqul, La ilaha illallah. Il n'est pas suffisant qu'ils disent, qu'ils prononcent uniquement La ilaha illallah. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on a vu, on l'a vu précédemment, hein, comme vous le savez. On a vu ça précédemment. Il n'y a pas uniquement le fait de connaître cette parole, plutôt de prononcer cette parole, mais il faut en avoir la connaissance, la croyance dans ton cœur. Donc ça, il nous dit. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ça, c'est un point d'orientation immense. C'est-à-dire que c'est un point conducteur. Le fait que quand tu l'as prononcé, le fait d'en avoir la croyance dans ton cœur, c'est un fondement principal. C'est-à-dire également, alors ça fait partie du sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors, Cheikh Al-Fawzan, écoutez bien ce qu'il nous dit. Parce qu'il y a énormément de gens qui disent La ilaha illallah, mais qui ne délaissent pas l'adoration des tombes, l'invocation des morts, la demande de secours aux morts, leur demander tout ce qu'on a besoin en dehors d'Allah. Ça veut dire qu'on ne demande pas à Allah ce dont on a besoin, mais on le demande à à ces gens qui sont dans les tombes. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le fait qu'ils disent La ilaha illallah, ça leur est inutile. Pour eux, c'est inutile. Ça leur sert à rien du tout. Ça leur sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mécru à, ils n'ont pas mécru à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, une condition de La ilaha illallah. Ici, il y a une condition fondamentale de la ilaha illallah, c'est de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, vous constaterez qu'il est très important, et c'est pour ça qu'il y a une grosse da'wa à faire en réalité dans la communauté, au moment où il y a énormément de gens qui n'ont pas compris cette parole de la ilaha illallah. Ils pensent que c'est juste, excusez-moi du terme, hein, mais il y a beaucoup de gens, ils croient que c'est ça, hein. C'est juste une parole magique. Alors, façon de parler, hein. C'est comme une parole magique. Si tu l'as dit, ça y est. C'est bon, je suis musulman, tout est réglé. Ils croient que c'est ça. Mais en réalité, on se rend compte sur le terrain. Lequel terrain? Le terrain de l'apprentissage. On se rend compte sur le terrain que c'est pas comme ça la réalité du tawhid. La réalité du tawhid, c'est que quand tu as prononcé cette parole, quand tu as prononcé cette parole, eh ben, il y a des implications, il y a un sens, il y a des conditions, il y a énormément de choses qui... Il y a énormément de choses, l'Ahibarak, qui font partie de la ilaha illallah, cette parole de Tawhid. Taïb. Et malheureusement, dans la communauté, énormément de gens sont passés à côté. Ils disent la ilaha illallah, mais ils n'ont pas fait complètement renier, ils n'ont complètement hein, pas renié tout ce qui est fait partie de l'adoration, des tombes, les invocations. On vous a parlé, aller voir des voyantes, faire de la sorcellerie, énormément de choses dans la communauté. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, la plupart des gens ignorent l'attestation, le sens de... Écoutez, hein, là vous verrez, ça ne vient pas de moi. C'est Cheikh Al-Fawzan qui nous dit, la plupart des gens, ils ignorent le sens de l'attestation, ils croient que c'est juste faut la prononcer. C'est assez grave, hein? C'est assez grave. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Taïb. Wa kathir min al-ulama. Écoutez bien. Alors là, c'est encore pire. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, et beaucoup de savants. Alors, il parle pas des savants de la Sunna. Il parle pas des savants de la Sunna. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, et beaucoup de savants ne comprennent pas le sens, n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Ils sont des savants dans le fiqh. Ils sont des savants dans la grammaire arabe. Ils sont des savants dans le hadith. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas occupés, ils ne s'occupent pas du tawhid. Wallahu al-musta'an. La plupart d'entre eux ne s'occupent pas du tawhid. Aou? Ou bien, ils étudient la croyance des Asha'ira. L'Asha'ira, c'est une secte qui est apparue il y a longtemps, hein, à l'époque des Salafs, qui est apparue. Et ils font croire que ils sont des gens de la Sunna, ils ont une croyance qui ressemble. Vous savez, Asha'ira, ça ressemble au Ahbash, au Habbash d'aujourd'hui, qui renie des noms et attributs d'Allah, qui disent Allah Ta'ala, il ne s'est pas élevé au-dessus de son trône, ils disent ça c'est de la mécréance, etc. Vous voyez, c'est cette croyance-là. Et bien il y a beaucoup de ulama qui ont suivi cette croyance et ils ne se sont pas occupés correctement du tawhid. Et qu'est-ce que ça a donné? Ou alors, on nous dit les savants de la dialecte. Ça, pareil, c'est une secte. Les philosophes, les savants de la dialecte, de la logique, tout ce qui n'est pas les gens de la sunna. Alors écoutez bien, tous ces gens qu'on vient de citer, ils ont restreint, réduit le tawhid à l'unicité de la seigneurie. Ça, c'est grave, hein? On a expliqué tout au début dans l'introduction que réduire l'unicité d'Allah, de la réduire à l'unicité de la seigneurie, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre toi et les associateurs à l'époque du prophète, le Quraysh. La tribu du prophète, alayhi salam, qui disait, nous, on croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, en tant que créateur, roi de l'univers, administrateur, celui qui donne la subsistance. Mais, dans l'adoration, ils adoraient Allah et 600 et quelques divinités. En plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, ils n'étaient pas musulmans. Donc, les musulmans d'aujourd'hui qui disent le tawhid, c'est tawhid rububiyya, et qui n'ont pas accepté ou concrétisé l'unicité de l'adoration, c'est chaud pour eux. C'est chaud pour eux. Naham. Wa yaqulu la ilaha illallah yufassirunaha. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils disent La ilaha illallah. Et il l'explique. Donc l'explication pour eux, c'est pas de créateur à part Allah, pas de capacité, de grande force et capacité dans la création à part Allah. Ça, c'est leur explication. Ils ne donnent pas d'importance au vrai tawhid et ils se limitent à l'unicité de la Seigneurie. Leur explication de la ilaha illallah ne dépasse pas. Leur explication de la ilaha illallah ne dépasse pas l'explication de la Seigneurie. Donc, ils ne se consacrent pas à l'unicité de la divinité, pourtant c'est ce qui est demandé. Ils ne se consacrent pas à l'unicité de la divinité. Naam, ils ne s'y consacrent pas, alors que c'est ce qui est demandé lorsqu'on, dans le témoignage de la ilaha illallah, pourtant l'unicité de la divinité dans l'adoration, c'est ce qui est demandé. Wahoua al-matloub. Ils ne s'y consacrent pas. Alors, on nous a envoyé la page du livre. La plupart des gens ne connaissent pas le sens de cette attestation. Ils pensent qu'il suffit de la prononcer. En outre, beaucoup de savants ne comprennent pas son sens. Des savants en fiqh, en syntaxe, en hadith. Le problème, c'est que la plupart ne donnent pas d'intérêt qu'il faut à l'unicité. À Tawhid, ils étudient la croyance ash'arite et sont versés dans le kalem, une croyance qui met l'accent sur l'unicité du domaine de la seigneurie divine, Rububiya. La définition de la ilaha illallah à leurs yeux, c'est qu'il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah ou que personne en dehors d'Allah n'a le pouvoir de création. Leur définition ne sort pas du Tawhid Rububiya et ils n'abordent jamais l'unicité de la divinité, Tawhid Alouhiya. C'est pourtant ce domaine auquel il est imposé de se soumettre en adhérant à cette unicité. Barakallahu fik, Cheikh Sadio. Je le transmets parce que ça, c'est un bon résumé. C'est exactement en français ce qu'on a traduit, hein. Voilà. Normalement, je l'ai transmis. Voilà, de l'autre côté. Normalement, ça a été transmis. Mashallah. C'est bien pour ceux qui veulent qui prennent pas de notes ou quoi, ou qui veulent à la suite prendre des notes. C'est une bonne chose. Taïb, on continue. Aïna waqaft. اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون أو يركزون على إثبات وجود الله. Alors écoutez bien. Le cheikh nous dit, lisez. Alors c'est lisez, mais lisez pas. C'est lisez pour vous dire, si vous allez dans les livres des gens de l'innovation comme les mutakallimin, les gens de la dialectale, hein, ça veut dire que si vous y alliez, vous allez trouver ces choses-là, mais n'y allez surtout pas. Tu trouveras que dans leurs livres, ils se sont concentrés sur l'affirmation de l'existence d'Allah. Ils se sont concentrés sur l'affirmation de l'existence d'Allah. Ça, c'est un piège du shaitan. Écoutez bien, vous avez vu comment les pièges qu'il fait le shaitan, tout le monde sait que Allah, il existe. Même ceux qui veulent faire un semblant de ne pas le reconnaître. On me disait dernièrement, on m'a dit ça hier ou avant-hier, que la plupart des scientifiques américains, ils se sont convertis à l'islam parce qu'ils ont déduit avec leur science que c'était pas possible qu'il n'y avait pas une entité supérieure qui gérait tout ça. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Donc ils se sont convertis. Donc la plupart des gens aujourd'hui, il y en a, c'est par orgueil. Ils savent très bien. On dit que même Pharaon, dans son état de, lorsqu'il était en train de mourir, il a dit, je crois à la divinité de Moussa et Haroun. Wallahu a'lam. Donc, Il n'y a pas de, en règle générale, c'est pour vous faire comprendre ce que dit Cheikh Al-Uthaymeen, il n'y a pas lieu de focaliser sur l'existence d'Allah. Il n'y a pas lieu de focaliser sur l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eux, ces gens-là, ils se sont fait avoir par le shaitan, la plupart des sectes, ou etc. C'est-à-dire qu'ils focalisent sur l'affirmation de l'existence d'Allah. En se détournant du principal, naham. Le principal, c'est que il faut vouer toute adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, vous m'excusez les frères, j'ai vu qu'il y avait des commentaires, j'ai peut-être zappé certains frères. Vous m'excusez, hein, c'est pas fait exprès, hein, c'est pas volontaire. J'avais cru voir qu'il y avait Bilal, il avait envoyé quelque chose également. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Oustad. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, cher Bilal. J'ai une question. Il y a un hadith où le prophète dit: la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Qu'en est-il de la parole La ilaha illallah? Le jugement de cette parole et sa concrétisation viendra-t-il après la prière? En fait, non. En fait, non, parce que le premier pilier, c'est La ilaha illallah. La première chose qui fait que tout est validé ou pas, c'est le tawhid. La prière sans le tawhid, c'est pas validé. Donc, c'est parmi les premières choses, parmi les premières choses dont sera jugé, c'est la prière. Taïb. Mais ça passe pas avant le Tawhid, ça ne passe pas. Il n'y a pas, comme on dit, comme le disent les savants, il n'y a pas ta'arroud. Ta'arroud en arabe, ça veut dire il n'y a pas contradiction entre ce hadith et autre chose. C'est juste qu'il faut connaître l'explication. Mais c'est une très bonne question, Cheikh Bilal. Hayyakallah. Cheikh Ibrahim, à qui appartient la terre et ceux qui sont. Si vous savez, ils diront: Allah dit, ne vous souvenez-vous donc pas, qui est le Seigneur des sept cieux de la terre, du trône sublime. Ils diront: appartient à Allah, ne craignez-vous donc pas Allah, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Si vous le savez, ils diront: Allah dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Alors, ça en fait, Cheikh Ibrahim, Alex, mashallah, barakallahu fik, il nous a envoyé quelques versets sur le fait que. La question, Allah Ta'ala, rhétorique, naham, Allah Ta'ala, sous forme interrogative rhétorique, Allah Ta'ala, il pose la question aux associateurs à l'époque: à qui appartient la terre et les cieux? Et à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, les mouchriquines. Ils diront, les associateurs, hein, ça appartient à Allah. Allah Ta'ala, il leur dit, ne vous souvenez-vous donc pas. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il se sert du fait qu'ils ont reconnu l'unicité de la Seigneurie pour leur dire, bah alors pourquoi vous reconnaissez pas l'unicité de la divinité dans l'adoration? Ne vous souvenez-vous donc pas. Dit, ensuite leur dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils vont dire, c'est Allah. Ils diront, ils appartiennent à Allah. Allah Ta'ala, il leur dit, ne craignez-vous donc pas. Pourquoi alors vous m'associez encore, si vous savez tout ça? Ensuite, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, si vous le savez, ils diront Allah. Allah Ta'ala leur dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? Hein? Et il y a d'autres versets. Hein? Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas. Subhanallah. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, toutes ces sectes, tous ces gens, ils ne témoignent, qui expliquent la parole de Tawhid par il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ils ne mentionnent pas l'adoration dans tout ça. Ils ne font pas mention de l'adoration. Les soufis, par exemple, les soufis vont aller adorer des tombes, ils vont aller invoquer des morts, ils vont aller invoquer, donc adorer des êtres vivants. C'est pour ça que chez eux, ils vont dire Allah, c'est le Seigneur de toutes choses, le Créateur, etc. Et ils vont faire du polythéisme à côté. À côté, ils font du polythéisme. Donc forcément, leur définition et explication du tawhid, elle est forcément erronée. Elle est forcément erronée. Parce que s'ils avaient la bonne définition du tawhid et qu'ils la mettaient en pratique, ils ne feraient pas tout ça. Ils n'iraient pas invoquer les morts, car on ne prend pas une adoration qui, normalement, n'importe quel genre d'adoration, le vœu, la prière, les invocations, le sacrifice, n'importe quoi, n'importe quelle adoration, au moment où tu vas la vouer à autre qu'Allah sous n'importe quel prétexte. Comme le disent les savants, les appellations ne changent pas les réalités. Ça signifie quoi? Ça veut dire que ton polythéisme, tu vas l'appeler comme tu veux. Non, c'est juste de l'intercession. Non, c'est de la. J'invente. L'intercession, je ne l'ai pas inventée. Hein. Ils disent que c'est de l'intercession. Que c'est tawassul. C'est-à-dire. Non, non, on les prend juste comme intermédiaires. Tu peux. Ou alors, on va inventer. Ils vont l'appeler comme ils veulent. On va appeler ça la festivité musulmane, par exemple. Les savants, ils ont une règle. Elle. At-tasmiyat la tughayyir al-haqa'iq. Les appellations ne changent pas la réalité. Le polythéisme, appelle-le comme tu veux. Appelle-le, nomme-le comme tu veux. Tu pourras le nommer comme tu veux. Il n'en est pas moins, il n'en est pas moins que ça restera du polythéisme. Taïeb, il n'en est pas moins que cela se nomme et s'appelle du polythéisme. Naam. Alors faites attention avec les micros parce que c'est pas pour nous, hein. C'est pas pour nous. On patiente, nous. Mais c'est juste celui qui veut qu'on l'entende dans les cours enregistrés, ben voilà. Le cours, j'aurais pas le temps de revenir, faire de manipuler pour enlever. Et j'avais oublié de dire également, le frère qui s'occupe de ça, il était malade. Il était très malade. Donc c'est pour ça qu'il manque, sur le site, il manque des cours. Ça m'a fait rappeler. Donc il a demandé des excuses à tous les élèves de l'institut. Je pense que je vais faire un message écrit. S'il y a des cours qui manquent sur le site ou il y a du retard ou quoi. Il était malade, il est toujours malade, et il m'a dit de présenter ses excuses à tous les élèves. Donc on parle du frère Tayeb qui s'occupe de. Lui s'occupe du site, la maintenance du site, tout ça, et de mettre les cours sur le site. Tayeb. Donc à partir de ce moment-là, quand on voit comment se conduisent certaines sectes, on comprend bien et mieux. Alors pourquoi dans un premier temps leur tawhid il est bancal, voire pas accepté. Le polythéisme, hein, ça annule le tawhid. Hein. Après, c'est du cas par cas. N'oubliez pas, c'est du cas par cas. Également, alors là je vous donne une faïda que vous connaissez déjà, mais c'est quand même assez important parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent, mais pourquoi, comme on dit, hein, le fameux proverbe, pourquoi tant de haine? Mais il faut que vous sachiez que voilà une raison pourquoi. Il y a énormément de gens, ils n'aiment pas les gens de la Sunna. Ils n'aiment pas. Parce qu'il n'y a que les gens, écoutez bien, il n'y a que les gens de la Sunna qui sont à fond dans ce tawhid et qui blâment tous ceux qui dévient de ce tawhid. L'établir ne vont pas dire aux soufis, pourquoi vous n'acceptez, vous avez des erreurs dans le tawhid, vous allez prier les tombes, etc. Il n'y a personne, ni les frères musulmans, ni les khawarij. Ni les soufis, ni les habbas, il n'y a personne. Il n'y a que les gens de la sunna qui disent, attention, vous faites du polythéisme, ça annule votre islam. Alors c'est pour ça qu'ils les ont pris en guerre. Alors, la guerre, elle n'est pas ouverte, si vous voulez. Elle est beaucoup privée, cette guerre. Alors, il y en a certains qui ont fait une guerre publique, hein, mais sinon, en général, Ils vont juste faire des livres pour leurs adeptes. Ils vont parler en coulisses à leurs adeptes. Attention aux gens de la Sunna. Attention, c'est des wahhabis. Attention ceci. Attention cela. Parce qu'ils ont peur que leurs adeptes découvrent la vérité. Mais en réalité, ce sont des sectes. Sectes égarées. Subhanallah. Il faut franchement se réveiller. Quand tu vas dans une mosquée et tu allais sur YouTube et regardais leur façon de danser, de faire des séances de je ne sais quoi dans la soufia, par exemple, on voit tout de suite que ça, c'est une secte, c'est pas l'islam. Ça, c'est une confrérie. Ça, c'est Wallah al-Musta'an. On n'a jamais entendu ça chez le prophète, on n'a jamais entendu ça chez les compagnons du prophète. Et tout ça, ça vient de quoi? Ça part à la base du fait que leur concrétisation de la parole du tawhid, elle est en panne. Elle est en panne. Taïb. Donc tout part de la base. Comme le disent les savants, il y a une règle. Écoutez bien cette règle. Franchement, vous devez la mémoriser, hein. Cette règle, faut pas passer à côté. Parce que même cette règle, elle va vous aider à comprendre beaucoup de choses et elle pourra vous aider même à répliquer à beaucoup de choses. Cette règle, les savants disent, si la base est bonne chez quelqu'un, si la base elle est bonne, tout le reste va suivre. Si la base elle est mauvaise, tout le reste va pas être bon. Donc à la base, si ton tawhid il est, t'as un bon tawhid, t'as des bonnes bases, t'as concrétisé la parole de la ilaha illallah, eh ben à ce moment-là, à ce moment-là, tout le reste va suivre. Taïb, tout le reste, il va suivre. Mais si dès le début, on voit que le tawhid, il est bancal, il n'est pas concrétisé, il y a des erreurs, il y a du polythéisme, il y a de l'innovation, tout ça, bah, sache que dans le fiqh, ça va être pareil. Dans l'usul fiqh, ça va être pareil. Dans le hadith, ça va être pareil. La croyance, n'en parlons même pas. Et voilà. Donc ça, c'est quand même assez important. Naham. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Bien que vous allez comprendre. Alors, la parole que je vais dire ici, rappelez-vous de ce que je vous dis. Hein. Je vais vous dire une parole ici. Et Inch'Allah Ta'ala, il y en a beaucoup. Bon, il y en a certains, ils vont la comprendre du premier coup. Il y en a beaucoup à l'institut, ils la comprendront vraiment bien on va faire ce soir normalement, Inch'Allah, dans le cours, je crois qu'il y a cours de tawhid. Dans le cours de tawhid, on va faire un rappel sur l'étude de la science, mais c'est vraiment quelque chose de lourd dans le sens. C'est-à-dire, pardon, la motivation. Et pourquoi il y a des gens, ils délaissent l'étude de la science, ou alors pourquoi il y a des gens, ils n'ont pas cette motivation, ils sont pas déterminés, ou alors ils sont pas du tout intéressés par l'étude de la science. Et il y aura beaucoup de paroles de salaf, et vous allez voir que les paroles de salaf, c'est pas les paroles d'aujourd'hui. Hein. Wallahi, c'est même inimaginable. Et ça, vous le verrez. Donc sûrement demain pour vous, pour votre classe, on vous retransmettra ça demain matin. Et ça, sinon, c'est un rappel qu'on va faire ce soir pour ceux qui sont du groupe du soir. Alors cette parole, c'est quoi? Ben, malheureusement, Inch'Allah, va falloir que je creuse parce que Shaitan il a réussi à me faire oublier. A'oudhu billahi minash shaitan rajim. Boum, c'est revenu. Alhamdulillah. Vous avez vu? On a demandé la protection d'Allah et la faïda, elle est revenue. Quand tu oublies, les savants disent, c'est que ça vient du shaitan. Alors, cette faïda, c'est que si ça tenait qu'à nous, on resterait longtemps, longtemps avec vous. Le plus longtemps possible. Que ce soit vous dans cette classe ou la classe des anciens. Nous, si ça tenait qu'à nous, on aimerait que ça se termine jamais. Que ça se termine jamais. Et cette parole, vous allez la comprendre. Vous allez la comprendre Dans l'exhortation et le rappel qu'on va faire ce soir, vous allez la comprendre, Inch'Allah, mieux. C'est-à-dire que à travers le rapport qu'avaient les salafs avec la science. Si vous voulez, je vais juste vous en sortir une là. Je vais juste vous en sortir une. Je vais juste une parole de salaf. Hein. Je vais vous en sortir une à l'arraché comme ça. Laquelle? Juste pour vous faire une petite idée que les paroles des salaf, c'est ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux entendre aujourd'hui. Ils avaient un rapport, c'est-à-dire une alaqa, c'est-à-dire un lien, une relation avec la science. Qui n'était pas. Je crois que ça existe presque plus aujourd'hui. Alors, An-Nawawi, il a dit. An-Nawmihi faqal. Idha ghalabani an-Nawm, stadantu ila kutub lahza. Alors, on a l'imam. An-Nawawi. Alors, plutôt, qu'est-ce qu'on va vous. Je n'ai jamais frappé à la porte d'un muhaddith. Alors, on a l'imam Az-Zahri, pardon. La femme de l'imam Az-Zahri a dit que l'imam Zahri, il a dit, c'est un grand imam des gens de la Sunna, il a dit, en montrant les livres, il a dit ces livres-là, ils sont plus de valeur pour moi que trois compagnons, voire trois femmes, que s'il aurait eu été marié à trois femmes. Donc ça, c'est dur à assimiler quand on est débutant, tout ça. Mais vous inquiétez pas, on va faire les choses de manière à ce qu'à la fin, vous allez dire, ah ouais, je comprends maintenant. C'est ça le but. Parce que les salafs, c'est autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, on va écouter des paroles de salaf où on va dire, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça, mieux que trois compagnons? Ça veut dire que les livres, le ilm, son vrai compagnon, c'est le livre. Son vrai compagnon. Ce qui lui a apporté vraiment quelque chose de inestimable, mieux que si j'avais trois copains, trois compagnons, c'est les livres. Ça, c'est juste une parmi tout ce qu'on va citer. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Alors, on en a une. On a Ibn Ahmed al-Farahidi, un salaf également, qui a dit, les heures les plus lourdes pour moi sont celles où je mange. Sont celles où je mange. Alors là, quelqu'un qui ne connaît pas Talab al-Ilm, qui n'a pas ça, qui n'a pas la valeur dans son cœur de l'étude de la science, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire là où c'est lourd pour moi, là où c'est les heures les plus. Où genre, je déteste plus ces heures-là, c'est les heures où je mange. Les gens. Aujourd'hui, la plupart, énormément, ils vont dire, ah, attends, c'est mon. Ça, c'est mes heures à moi. Regardez, les imams de la Sunna, ils vous disent les heures les plus lourdes, insignifiantes pour moi, les plus. C'est les heures où je vais manger. Pourquoi? Parce que ça le coupe. Ce sont des heures où il est coupé de l'étude de la science. Il y en a un autre, il a dit, toute ma vie, j'ai jamais mis de la nourriture dans ma bouche. J'écrivais le hadith pendant que ma sœur, elle me donnait à manger avec une cuillère. Une cuillère ou voilà. Ça, faut le comprendre. Wallah, faut le comprendre, ça. C'est pas donné à tout le monde. Nous, on va essayer de vous inculquer ces choses-là, parce que si ça rentre dans le cœur de quelqu'un, ça y est, si ça rentre dans ton cœur, écoutez, hein, ça y est, t'auras le. Comment on va dire? Ça y est, t'auras le secret. Le secret, ça y est, il sera dans ton cœur. le secret des ulama, le secret des toulab al-ilm, ceux qui ont réussi, même s'il n'y avait que du sable à manger, ils sont restés 15 ans à étudier. Il y avait un élève de Cheikh Mokbel qui nous donnait des cours à l'époque, Raïhmou, j'ai entendu qu'il était mort dans la guerre avec les chiites, tout ça, Raïhmou, Rahimahullah, il y avait un élève de Cheikh Mokbel, il nous faisait des cours de Aqida à l'époque, il nous racontait au tout début, hein, au tout début, à l'époque de Cheikh Mokbel, au tout début quand Cheikh Mokbel il leur donnait des cours, etc., vous savez qu'il y a les grands élèves de Cheikh Mokbel, il y a les moyens élèves, et il y a ceux qui l'ont jamais connu. Nous, par la grâce d'Allah, on va dire, dans les moyens. Quand on est parti, la première fois, il y avait encore Cheikh Mokbel, etc. Mais c'était vers la fin. Après, il est tombé malade et voilà. Mais il y a ceux qui sont restés 10 ans, 20 ans avec Cheikh Mokbel. Moi, je vous parle de ces élèves-là, qui après, quand il est mort, ils nous ont donné des cours. Eh ben, parmi ces élèves, on avait un professeur qui nous disait, à l'époque, tout début de Cheikh Mokbel, on mangeait des araignées, il n'y avait rien à manger, même pas un bout de pain. Il nous disait, on mangeait des araignées. Je vous raconte pas des histoires. Hein. Et voilà, nous à notre époque, tout est fait pour que ça, on dise, mais ils sont fous, c'est quoi ça? Mais vous savez, cette notion-là, si elle rentre dans ton cœur, c'est ça qui fera que tu seras un vrai étudiant et qu'un jour, tu te consacreras toute ta vie à l'étude de la science, tu deviendras un savant, un étudiant. Ça va être en fonction de ce secret, comment tu l'as pratiqué. Comment il fonctionne dans ton cœur. Alors, il y a ceux ils sont arrivés jusqu'à l'ascétisme. Comment on dit en français l'ascétisme? J'ai oublié, wallah al-musta'an. A'ouzou Bah c'est l'ascétisme en français. Je croyais que je parlais en arabe, excusez-moi. Zuhd, c'est l'ascétisme. Zuhd en arabe, c'est l'ascétisme. Il y en a, ils sont arrivés à ce niveau de dire que je me contente du minimum et j'ai pas besoin de 4 repas par jour, j'ai pas besoin de shbaa, même un repas c'est trop, Allah il m'a mis la baraka et tout le reste j'étudie. J'ai tellement une confiance en Allah, dans talab al-ilm, l'amour de l'étude de la science, que Allah Ta'ala, il me donne ma subsistance. Il me donne ma subsistance. Elle vient comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais Allah Ta'ala, il nous a éduqués en fonction que il faut faire les causes. Mais sachez que les savants disent, parmi les causes de subsistance, il y a l'étude de la science. Eh oui. Parmi les causes, il y a le travail, il y a cultiver la terre, il y a la recherche de la science également. Les savants disent c'est considéré comme une cause de subsistance, le fait d'étudier la science. Donc, je vais faire mon possible. Je vais vraiment essayer de vous transmettre, de vous sensibiliser sur cette notion qu'avaient les salafs. Alors, on en conviendra que c'est le summum, c'est le plus haut degré. Mais si ne serait-ce qu'un grain de cette notion, elle va dans ton cœur, wallahi, oh là là, t'as tout gagné. Parce que pour tout le monde, et même pour nous-mêmes, hein, c'est cette notion qui a engendré chez nous cette motivation, c'est cette notion en fait qui va engendrer chez la personne la motivation, la détermination. Et après, tout peut arriver. Hein. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, ils sont partis dans une montagne, il n'y avait rien. Rien à manger. Ils se sont dit, moi, je suis venu prendre le hadith. Il y a des salafs, ils sont partis, ils ont saigné des pieds tellement ils ont marché. 6 mois de voyage pour un hadith. Nous, aujourd'hui, on a des livres en français. On a tout. On a des professeurs, on a des instituts. Tu as juste appuyé sur un bouton, ouvrir tes oreilles, façon de parler. Hein. Et on a un certain laxisme, une certaine paresse. Même avec ça, on n'est pas encore. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Avec tous les moyens de communication, avec tous les moyens de retranscription, avec tous les moyens d'enregistrement aujourd'hui. Vous savez, moi, à l'époque, quand j'étais parti étudier, j'avais un poste, un transistor, ça s'appelle. J'avais un poste, je sais pas si vous êtes de cette génération, un poste cassette recording enregistreur. C'est avec ça que j'enregistrais mes cours et je retranscrivais mes cours. Des cassettes, cassettes audio. Il fallait que j'achète des cassettes vierges. J'appuyais sur recording, record. J'appuyais sur enregistrement et j'enregistrais le professeur et ensuite j'écoutais, je réécoutais. Alors pause, avance, return, en arrière, et j'écrivais, je retranscrivais. Des fois, je mettais des heures pour retranscrire un cours. C'est pas comme on a aujourd'hui MP3, tout ça là. On n'avait pas, nous, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans, ça n'existait pas. En tout cas, au Yémen, ça n'existait pas. Peut-être en France, ça existait, mais pas au Yémen. Non. Donc, voilà, pour vous dire. Inch'Allah ta'ala, notre cours touche à sa fin. On va lire les commentaires de nos frères. Wafik barakallah, Cheikh Bilal. Barakallah oufikoum. Bonne guérison pour notre frère professeur. Je prie Allah le très grand, Seigneur du trône immense, de te guérir. Amin, amin pour lui, hein, qu'il n'ait pas de mal, que ce soit pour toi une purification de tes péchés, si Allah le veut. Amin, barakallahu fikum. Les savants disent, si la base est bonne chez quelqu'un, tout le reste va suivre. Si la base est mauvaise chez quelqu'un, tout le reste n'est pas bon. Barakallahu fik, Cheikh Abou Youssouf. Je vais la transmettre comme ça dans l'autre groupe. Voilà. Également, les savants disent, si la base... par contre, si ton tawhid n'est pas bon au départ, tout le reste ne tiendra avec ignorance et mauvaise croyance. Naham. Ça aussi, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de retranscrire, voilà, ça vous fera. Donc, Inch'Allah ta'ala, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Sinon, ce cours touchera, arrive à son terme. Barakallahu fiikum. Donc, pas de questions. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah.